RMC.
Bounce card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC, que vous podcastez sur rmc.fr avec la Dream Team du jour, Stephen Brun, Arnaud Valadon, Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Bonjour. Salut Pierrot.
Salut Pierrot.
Encore étourdi par la performance de Joel Embiid, qui a mis 70 points sur le nez des Spurs et de Victor Wembanyama. T'as vécu ça en direct, Fred ?
J'ai vécu ça en direct.
Alors, t'étais ému ?
J'étais impressionné. J'étais très impressionné. En même temps, quand tu joues contre Zach Collins, t'as des chances de marquer des points quand même.
Enfin, Victor, on a pris aussi un peu.
Oui, on a pris un peu aussi, mais si tu regardes vraiment.
Victor a pris 2-3 coups de physique.
Deux coups d'épaule, puis on fait reculer 2 mètres là. Mais je,
des petits shoots à l'elbow là, allant poste haut.
Tu sais que c'est un spécial français.
C'est un spécial français.
Aujourd'hui. Non, mais tout ça pour te dire que Joel Embiid, il a mis 121 points cumulé sur Gobert et Wembanyama en 4 jours d'intervalle.
Vive pour les jeux.
Mais avec nous, on va peut-être être champion olympique. Ah bah non, ça marche plus.
Non.
Mais on aura peut-être été. Mais on a de plus en plus de regrets quand même.
Mais lui, va peut-être l'être champion olympique.
Oui, probablement, lui. Il a des chances. Alors, c'est un bilan demi-saison pour le basket français. Et là, attention, on démarre par Victor Wembanyama avec un débat très positif. Wembanyama va-t-il encore plus vite que prévu? On va faire le bilan de sa demi-saison. Et puis, vous allez me dire qui est pour vous le meilleur français de l'Euroleague. Cette ligue si dense où il y a tant de talents dont on parle peu dans Basket Time, mais de temps en temps, et ça nous fait bien plaisir aujourd'hui. Donc on parlera des Français de l'Euroleague. Et puis dans la partie historique, vous allez choisir l'équipe qui va entrer dans l'histoire pour les Jeux Olympiques de Paris. On refait ce débat plusieurs fois dans la saison, et c'est normal, en fonction des états de forme. Vous me direz quelle est votre équipe de France à l'heure actuelle, l'équipe de France qui sera médaillée olympique, j'ose pas dire championne olympique là.
On verra,
il a dit ça, Fred.
L'équipe de France, ça inclut les filles aussi.
Oui, Fred, les filles,
Fred, le pessimiste, m'a dit on verra.
Ça inclut les filles, ça inclut le 3-3. Donc on a 4 possibilités
en
de médailles.
En 3-3 avec les filles, peut-être.
Dis-moi, tu crois vraiment que l'équipe de France masculine a la moindre chance d'être championne olympique?
Non.
Ah bah alors, ça va.
Mais on verra, j'essaye d'être optimiste, mais c'est compliqué quand même.
Donc ce sera un quiz bilan de mi-saison, bien entendu. J'espère que vous avez révisé vos stats, les infos,
non.
L'actualité.
Non.
Il n'y a aucune dinguerie, j'espère que vous n'allez pas être déçu.
Je suis un peu déçu finalement, il n'y a pas sur les animaux.
Niveau difficulté,
les animaux quand même.
Niveau difficulté,
il est correct, sans plus.
2 sur 5
2,5 sur 5.
Ah oui, tu nous as fait pour les amateurs.
Basket Time, tous les mardis en podcast sur rmc.fr, c'est parti avec Wemby.
Wembanyama. Oh, goes down! Oh, no! And puts it down!
Are you kidding me?
McCallum's being challenged by the rookie Koulibaly. Obby with a bounce pass. Bilal challenging McDermott. What a special play by the young French phenom.
Did you see the look on his face?
Nico Batum. And it's good. Welcome to Philly. Nicholas Batum.
Batum pokes it out to Maxey. Nick Batum still makes smart basketball plays.
And Conley over to Gobert. Left hand hammer. Gobert inside. Oh, the little euro from the Frenchman.
And Gobert inside.
Clarence Bates. Get out the way.
Antoine over to Rupert for three.
Got it. Ryan Rupert. Rupert.
Allez, on va faire le bilan de mi-saison de Wembanyama. Donc, à mi-saison, le bilan des Spurs est mauvais, mais le bilan de Wemby est excellent. Avec des stats à plus de 20 points, 10 rebonds, presque 3 passes et 3,2 contre par match, plus une interception. Alors, au-delà des stats, je pense qu'on va surtout parler de son influence dans le jeu qui, de match en match, prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'il va plus vite que prévu? C'est la question que je vous pose. Mais d'abord, on va tout de suite démarrer sur l'actualité brûlante de la nuit dernière, puisque Joel Embiid a inscrit ses 78 points face à Wembanyama. Je vous pose une question très rapide. Après, d'abord, la réaction de Embiid à propos de Victor.
J'espère que quand je n'aurai plus à défendre contre lui et que je ne serai plus dans la ligue, il pourra battre tous ses records. Peut-être qu'il pourra même battre le record de Wilt qui est de 100 points.
Les records de 100 points de Wilt Chamberlain, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il part de Wemby en ces termes? Mais est-ce que, à votre avis, ça lui tenait à cœur de faire cette perf contre Wembanyama?
Bien sûr qu'il avait envie de marquer les esprits. Tu joues contre une licorne, tu joues contre un extraterrestre et tu as envie de montrer que finalement c'est encore toi le boss. Alors oui, il arrive, oui, il est puissant, oui, il va être très très fort, sauf que le boss, c'est Joel Embiid. Et hier, franchement,
ça,
il l'a montré. Il l'a montré.
Ça fait 2 mois qu'il c'est le boss Joel Embiid. Je crois que c'est son 31e match de suite à au moins 30 points. Ce qu'il a fait hier, c'est Destruction massive des Spurs. Alors de Victor, oui, mais de Zach Collins, enfin de tout le monde. À un moment donné, il met des paniers, ils sont trois sur lui, ils sont accrochés à ses bras. Bon, il met quand même le panier avec la faute. Il a tout fait.
À un moment, il prend des rebonds, oui, oui, il joue contre des poussins.
Il fait parce que 70 points, mais il fait 18 rebonds aussi. Hein. Donc on s'arrête sur les 70, mais il y a quand même 18 rebonds qui vont avec. Il est inarrêtable, il a tout dans sa palette offensive de jeu. Il est monstrueux. En plus, quand il est triplé, bon, il est capable de faire des passes. Voilà, Victor, on a vu la différence physique entre les deux, parce que Fred l'a dit tout à l'heure en préambule. À un moment donné, il y a un duel, il met 2-3 coups d'épaule. Victor, il pète. Alors, une fois, il a résisté contre Giannis Antetokounmpo quand il l'avait contré. Mais je crois que Joel Embiid, c'est plus costaud encore que Giannis Antetokounmpo. C'est inarrêtable, en fait, Joel Embiid actuellement. Voilà, il a mis 70. Victor en a mis 33, même pas la moitié. Même si Victor fait un bon match, mais Joel Embiid, je crois que personne ne peut l'arrêter.
Alors, quand tu dis un jour il battra peut-être le record de Chamberlain, c'est de la com, c'est des belles phrases à l'américaine.
Il y a un peu tout. Moi, je pense qu'il y a un peu tout.
De vérité là-dedans.
Il y a un peu de vérité. Je pense qu'il le pense vraiment parce qu'il met quand même 33 points. Il est sur son rookie. Il sait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc, je pense qu'il y croit un petit peu quand même.
Oui, un magnifique duel dans le premier quart-temps. Vraiment, il se rendait coup pour coup. Et après, Victor a beaucoup pris de tirs extérieurs avec. Voilà, une adresse à trois points qui était pas là. Mais s'il y a une image, c'est en début de match. Embiid arrive à l'échauffement et il veut regarder vraiment l'envergure de Victor. Et il passe à côté, il fait « Ah ouais, quand même ». Enfin, tu vois, ça se voit sur son visage, il dit « Mais quand même, c'est impressionnant ». Parce que c'est vrai que tous les joueurs américains qui n'ont pas encore joué contre Wembanyama, oui, on l'a vu à la télé et tout, mais de le voir en vrai, c'est là qu'ils prennent un peu une claque en voyant les dimensions de Wembanyama.
Alors Arnaud, si on continue sur le début de saison de Wemby, on peut dire qu'il y a un déclic lorsque Chet Holmgren reçoit deux fois de suite le trophée de rookie du mois. Il s'est mis en mode « Bon, maintenant c'est terminé, le meilleur c'est moi ».
C'est début janvier, c'est vrai que ça l'a piqué le fait de voir le rookie entre guillemets du Thunder, parce que Chet Holmgren a été drafté l'année dernière, mais ce n'est que sa première vraie saison puisqu'il a été blessé l'année passée. Et Victor Wembanyama qui est toujours sous des restrictions de minutes, hein, pas plus de 27-28 minutes par match à cause d'une cheville douloureuse, même si cette restriction va être relevée dans les prochains jours selon Greg Popovich et même selon Victor Wembanyama. Et depuis ce début janvier, et bien Victor Wembanyama, c'est du 20 points 10 rebonds avec plus de 50% de lancer d'adresse et surtout le plus moins, vous savez ce que fait votre équipe quand vous êtes sur le terrain, plus 7 de moyenne sur les 5-6 matchs qu'il a joué et 3 victoires, Charlotte, Détroit, Washington. Et il y a cette phrase évidemment qui a marqué et ça prouve là son augmentation statistique. Et bien Victor Wembanyama, il l'avait dit, il avait prévenu.
Of course. Bien sûr, je suis déterminé et au bout du compte, je sais que j'aurai ce que je mérite. À partir de maintenant, je veux vraiment marquer le coup à chaque match.
Et dans le même temps, Holmgren, c'est 7 minutes de plus, 17 points, 6 rebonds dans une équipe qui certes est moins bâtie autour de lui et plus bâtie autour de Shai Gilgeous-Alexander.
Alors, est-ce que ça va plus vite, encore plus vite que ce à quoi tu t'attendais, Fred ?
Je sais pas parce que je m'attends plus à rien de particulier avec Victor.
Bah,
je sais
tu que constates, quoi. Au cinéma avec tes pop-corn, tu regardes.
Exactement, je suis en train de regarder parce qu'en fait, tu peux pas te dire il va s'arrêter là parce qu'à chaque fois que tu dis il s'arrête là, son plafond de verre c'est là et il va avoir le rookie wall, etc. Bah tu te dis bah non en fait. En fait, justement, Chet, j'ai l'impression que lui, il est en train de subir un petit peu le rookie wall, c'est un petit peu plus dur, il y a des matchs un peu plus compliqués. Mais du côté de Victor, on a l'impression qu'il est sur un long fleuve tranquille, qu'il a toujours joué en NBA, qu'il maîtrise ça, malgré le peu de temps de jeu qu'il a, parce que pour moi, il joue pas assez.
Il joue pas beaucoup, hein.
Et le fait de franchement, ces changements timés, là, je peux plus supporter non plus. C'est-à-dire qu'au bout de 6 minutes, tu sors, au bout de 6 minutes, tu re-rentres, ça me paraît un peu n'importe quoi. Mais je trouve que ce joueur est juste, bah, tu regardes et tu. Et
Si tu te remets au début de saison, tu pouvais imaginer ça ?
Donc... On avait prédit hein, avec Stéphane, on supposait qu'il était capable de faire du 20-10.
20-10, ouais.
Et en fait, il est en train de les faire. Et juste.
En 27 minutes.
Voilà, c'est le temps de jeu qu'on pensait pas. On pensait qu'il allait jouer 34-35. Et finalement, il joue presque 8 minutes de moins. Et malgré ça, il fait ce qu'on avait prévu.
Steve,
non, pas surpris par ce garçon qui a arrêté de nous surprendre, je pense. Maintenant, il faut, à mon sens, il y a pas photo entre Wembanyama et Chet Holmgren. Il y a pas photo.
Non, le débat
entre
est fini là, non ?
Pour moi, le débat il est fini. S'il faut arrêter la mascarade, s'il est pas rookie de l'année rookie du mois au mois de janvier, Victor Wembanyama, c'est terminé. Moi, je fais plus Basket Time, je regarde plus la NBA.
Vraiment ?
Je me désabonne de mon League Pass, je donne plus d'oseille à cette ligue. C'est
J'aime
terminé.
Beaucoup la NFL, si tu veux, on se met dessus.
Ouais. Non, mais parce que il y a pas photo sur le mois de janvier. Tu projettes sur 36 minutes les stats de Victor en mois de janvier, c'est 30 points, 15 rebonds, 4 comptes de moyenne. Il est largement au-dessus. Il a fait des choses que Chet Holmgren n'a jamais fait. On rappelle qu'il a quand même fait un triple-double déjà cette saison, qu'il a une pointe à 38 points, qu'il a fait un record à 8 comptes, qu'il a déjà fait 10 passes, il a fait un match à 20 points, 20 rebonds, un match à 6 interceptions.
Troisième vendeur de maillot.
Tout ça, Chattelgren ne l'a pas fait. Ne l'a pas fait. Donc arrêtons de me comparer les deux. Oui, Chattelgren dans une meilleure équipe. Bravo, mon grand. T'as été drafté par OKC. Félicitations à toi. Tu gagnes des matchs. Mais tu n'es pas dans la même cour que Victor Wembanyama. Point voilà. Barre.
Et on n'a pas trop de doute à se dire que ce sera toute sa carrière comme ça.
Mais Chattelgren va être un très bon joueur NBA.
Mais pas dans la même cour. Pour l'instant, il n'est pas numéro 1 de son équipe. C'est pas le leader de son équipe.
Non, Chattelgren, dans la cour de la création, il est avec les 6e et les 5e. Et Victor, il est en 6e, mais il discute avec les 3e.
Moi, j'ai une vraie question. Tu mets Victor avec Shea. Comment ça se passe?
En fait,
il faut vraiment se poser la question par rapport à ça aussi.
Je pense que les stats de Victor sont bien plus fortes à OKC qu'à Spurs. Il joue avec des pipes en bois qui lui mettent pas une passe correcte, Fred.
Il se démerde
tout seul.
Ça, c'est vrai que les mecs lui passent.
À OKC, les Josh Giddey et les Shaggy Alexander, ils lui mettent des bons ballons.
Ils ont progressé quand même depuis que Chet est arrivé. Ils sont meilleurs à OKC.
Oui, il
a apporté une plus-value des équipes qui étaient déjà bonnes.
Ils ont ajouté un bon joueur de basket.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est, je trouve que ça se sent et ça se voit quand même quand il est sur le terrain, Chet Holmgren. Après, ils n'ont pas d'autres pivots, hein. je suis d'accord.
Il est tout seul, il a zéro concurrence.
Je suis d'accord, mais je trouve que ce qu'il fait, c'est quand même hyper intéressant d'une équipe en place.
Je ne vais pas te dire que c'est une pipe, Chattelgren, mais pour moi, c'est loin de Victor Wembanyama.
Sachant que Victor est, pour les rookies, numéro 1 en points, numéro 1 en rebond, avec toujours vraiment ses 27-28 minutes. S'il avait le même temps de jeu que Chattelgren, ça ferait au moins 24 points.
Il est numéro 1 d'interception, il est numéro 1 partout, en fait.
Les blocs.
Bon, ouais, après, juste un mot aussi quand même, parce que c'est important et on a beaucoup débattu de ça en ce début de saison. Les Spurs vont mieux aussi, même si
bon, ils ont battu trois équipes de
Charlotte
n'est
pas Washington.
Mais hier, par exemple aussi, ça allait mieux. Tu sens que il faut que
les matchs ressemblent un peu plus à quelque chose
pour qu'ils puissent s'imposer. Les Spurs finalement.
Ouais, il revient un peu sur la fin, mais ils sont à moins 18 à un moment donné.
Je suis d'accord, mais qu'est-ce qui se passait avant? C'est qu'ils craquaient complètement.
Oui, ils en prenaient 30.
Et ils en prenaient 30, voire 40.
Exactement.
D'accord. Sauf qu'on a l'impression que maintenant, de bout en bout, ils travaillent. Il y a un vrai progrès. Alors, je ne te dis pas que c'est suffisant, évidemment que non, mais il y a un vrai progrès quand même.
Ils sont à un bilan de 8 victoires, 35 défaites, donc ce qui est abominable, hein, on est bien d'accord. Mais ils étaient partis sur des standards bien pires que ça.
Ils ont deux fois plus de victoires que les Pistons. Hein.
Ils ont deux fois plus de victoires que les Pistons.
Les Pistons,
la référence en même temps n'est pas géniale. Hein, mais...
Après, on va voir s'il y a des trades ou pas. On va voir la trade d'Eglan. Oui. Qu'est-ce qu'on peut changer.
Qu'est-ce qui est intéressant dans cette équipe des Spurs là?
Qu'est-ce qui est intéressant? Ouais. Victor Wembanyama.
À part Victor,
j'aime bien Vassell.
Trey Jones. Depuis qu'il est meneur de jeu, ça coïncide aussi un petit peu avec le renouveau un peu du basket des Spurs, qui est un bon meneur de jeu. Maintenant,
redevine Vassell, c'est un joueur correct.
Sohan, ça peut être pas mal, parce que je trouve qu'il défend très très bien.
Oui,
très bon,
mais c'est un bon joueur quand il joue à son poste.
Exactement,
en fait.
Exactement. Mais lui, c'est pas mal.
Ils ont des joueurs intéressants, jeunes, mais il faut faire venir des mecs d'un standard
supérieur. Est-ce que tu connais, vous savez, quel est le deuxième joueur le mieux payé des Spurs cette saison?
C'est Vassell.
C'est Victor Wembanyama.
C'est Doug McDermott.
Doug McDermott.
Il a 12 millions la saison.
Bravo, belle agence.
Regardez ça pour savoir quelle est la marge en fait dans un an des Spurs et ce qu'ils vont pouvoir
faire. C'est pas un mauvais joueur. Je pense dans une bonne équipe, il peut être intéressant. Mais maintenant, s'il a 12 millions dans une équipe où il est censé être presque le meilleur joueur, ouais, c'est un peu faible.
Alors, si on parle des autres Français, c'est un peu l'inverse pour Bilal Koulibaly qui a impressionné en début de saison et dont les chiffres, en tout cas, alors je sais pas si l'influence sur le terrain, est, on va dire la même chose, mais les chiffres sont en baisse en tout cas. Pour Bilal.
Oh, mec, tu fais une intro un peu sévère sur Bilal.
Tu chipotes un peu. Non, là aussi, première année, hein, donc il y a des moments où il y a des hauts et des bas, il y a un peu de flottement. Il joue quand même avec Jordan Poole et Kuzma. Honnêtement, c'est pas facile, c'est pas cadeau. Il le touche pas beaucoup, donc défensivement, il fait ce qu'il a à faire. Alors oui, les stats, c'est fluctuant, mais c'est normal pour un rookie. Et moi, je trouve qu'il fait plutôt une très bonne saison.
Et petite info de Shams Charania, l'insider, qui a dit que les Wizards considéraient que tout le monde pouvait être aidé, sauf Bilal Koulibaly.
C'est vrai ?
Oui.
Et ça, c'est fort.
Oui, c'est sorti hier, ça. Donc,
déjà se débarrasser de Jordan Poole, non ?
Oui.
Oui, éventuellement, mais il faut
trouver un preneur pour Jordan Poole.
Mais ce que fait Bilal Koulibaly, pour moi, je trouve ça exceptionnel. Il y a un an, pile poil, il jouait en espoir à Boulogne-le-Valois. Aujourd'hui, il est à 26 minutes de moyenne en NBA. C'est le sixième homme des Wizards. Il a 40% à 3 points, alors qu'il y a 2 ans, saison pleine avec les espoirs à Boulogne, il est à 20%. Et pour moi, c'est la plus grosse surprise, sa capacité à mettre des tirs sur des petits volumes. Certes, il est quasiment à 3 tirs par match, mais être à 40%, une ligne que tu découvres qui est plus loin qu'en Europe, alors que tu étais à 20% il y a 2 ans, moi, je suis très surpris par
C'est
indispensable dans la NBA d'aujourd'hui de mettre des tirs. Donc, moi, j'ai envie de lui dire félicitations, Bilal. Et,
oui.
Très surtout dans ce contexte, parce que franchement, t'es rookie, t'arrives dans une équipe, pardonnez-moi l'expression, mais totalement pété. Y a
de merde,
qui
de
va.
Merde.
Et franchement, il bouge pas de sa ligne, il dévie pas. On savait que c'était un joueur avec stable, même familial, balle bien entourée. Et franchement.
Mais en même temps, un peu de stabilité à Washington, oui. C'est pas grave. Hein. Et puis, ils sont contents.
Et puis, c'est propre ce qu'il fait sur le terrain. C'est propre. C'est un beau joueur de basket, Bilal.
Alors, Nico Batum maintenant. Nico Batum.
Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tu veux dire que ses stats sont en baisse aussi?
Non, Nico Batum.
Bah, 25 minutes, 6 points.
Ce qu'il fait est incroyable, puisqu'il était l'homme à tout faire des Clippers. Il change de franchise et il est l'homme à tout faire des Sixers. Il est passé d'une équipe qui peut être championne à une équipe qui peut être championne. C'est quand même assez remarquable, non?
Moi, le match de hier. Alors, oui, bien sûr, Joel Embiid fait un match fantastique, 70 points, etc., 18 rebonds. Ok. Sauf que je trouve que le match de Nicolas Batum. Il est monstrueux. C'est-à-dire qu'il apporte à chaque fois ce qu'il doit apporter. À un moment, ils sont un petit peu en retrait. Ok, il fait une interception, ils vont marquer un panier. Il est dans le corner, il est trouvé par Joel Embiid, il met le shoot à 3 points. Il fait absolument tout pour que cette équipe gagne. Et je peux te dire que Joel Embiid, il kiffe jouer avec Nicolas Batum, c'est certain, parce qu'il le trouve bien. Le high-low, il est incroyable, parce qu'il monte toujours au bon moment.
Ils auraient fait le trade un an plus tôt, il venait avec l'équipe de France au JO.
Peut-être le lobbying, mais non, Fred a raison. Déjà, ils sont associés systématiquement ensemble, Embiid, oui. Batum, parce qu'il y a une vraie connexion entre les deux. Je ne vais pas te dire que si Joel Embiid fait des stats historiques, c'est uniquement grâce à Nico Batum, mais il y a une part prépondérante du français sur le carnage qu'est en train de faire Joel Embiid. Et puis parfois, je retrouve des flashs de Nico Batum lorsqu'il était à son prime. Dans le jeu sans ballon, le coupe dans le dos, il va gratter des petites claquettes parce qu'il va au Romo off en mouvement. Je retrouve ça qui avait perdu aux Clippers, il bougeait plus sur le terrain. Là, il bouge de temps en temps, tu le vois traverser sur la ligne de fond. Donc, fantastique. Fantastique, Nico Batum, qui est dans une équipe qui est troisième à l'Est. Il a 48% à 3 points. Il a même mis en action, tu sais, il s'entraînait beaucoup sur le catch, le ballon en haut, ouais. Tiré comme ça.
Mais bah, il le fait.
Il le met.
Et il le fait, ouais.
Il l'aimait, donc il est content. Il y a son fiston dans le vestiaire qui, avec la bouteille, qui arrose Joel Embiid parce qu'il a mis 70 points. Voilà, le seul problème, c'est qu'il a dû dépenser un peu d'oseille en doudoune et en hug pour réchauffer les pieds, parce qu'aux Clippers, il n'est pas besoin de doudoune à Los Angeles.
Alors, Daryl Morey a déclaré, Batum est peut-être le meilleur binôme que Joel ait pu avoir depuis qu'il est ici.
Moi, je pense la même chose. Je pense que toute star veut jouer avec Nicolas Batum, mais je pense que Joel Embiid, c'est vraiment le complément parfait.
Ils ont fait exprès ou c'est de la chance, ça?
Il y a une lecture, quand même. Daryl Morey, Nick Nurse.
Mais il y a beaucoup de gens qui... En fait, il est sous-estimé, hein, Nico Batum, en France, parce que là-bas, ils l'aiment bien. Ils savent sa lecture de jeu, ils savent l'apport qu'il peut avoir. Et je pense que oui, c'est pas pour rien qu'ils l'ont.
Et si on se projette, et ça sera le talk 3, mais si tu te projettes sur l'équipe de France, Nico Batum, sa qualité de passe, sa façon dont il amène les ballons à l'intérieur... Avec Victor Wembanyama, ça amène quelques belles promesses.
Ouais. Et puis dernier mot quand même, puisque Rudy Gobert est en tête de la conférence Ouest avec les Minnesota Timberwolves. Pourquoi cette petite tête de côté là?
Moi,
Non, mais pas du tout.
Complètement fou.
13 points, 12 rebonds de
base. Moi, je suis super content.
Je vous balance, Fred, il est sceptique.
Mais je suis pas du tout sceptique, au contraire. Il est fou, ce mec. Non, c'est une saison incroyable de la part de Rudy Gobert. Peut-être sa meilleure saison d'ailleurs, parce que justement, il est dans ce rôle où on l'aime. C'est-à-dire qu'il ne s'invente pas un jeu qu'il n'a pas, il fait ce qu'il a à faire. Défensivement, il est incroyable, il tient de mieux en mieux en plus. Les 1 contre 1 quand il parle de l'extérieur, c'est une muraille, c'est un joueur incroyable, il fait le taf. Ouais.
C'est redevenu un candidat très crédible pour son quatrième trophée de défenseur de l'année. Il joue dans une équipe qui a le meilleur rating défensif, qui encaisse le moins de points dans la ligue. C'est une équipe qui est premier de la conférence Ouest.
Mais est-ce que Minnesota est un candidat crédible au titre?
Quand t'es premier, au bout de 45 matchs.
Dis pas quand t'es premier, est-ce que vous y croyez?
Moi, pas du tout.
Voilà.
Moi, j'y crois pas.
Mais ils sont un candidat quand même.
Parce que moi, je trouve que oui, ça manque un peu de talent.
C'est une franchise là, à laquelle personne s'intéresse.
Non, mais c'est pas ça. Ça manque un peu de talent.
Je sais, vous êtes en train de faire une erreur colossale.
Ouais, autour de Anthony Edwards, je trouve que ça manque un petit peu de talent offensif. Alors oui, Karl Anthony Towns sort d'un match à 62, mais
le pauvre Karl Anthony Towns, personne ne va se souvenir de ses 62 points. Déjà, c'est le soir des 70
d'un but. Il a perdu contre une équipe de pompe. mais il a quand même mis 46 en demi-temps.
Oui, c'est
quand même énorme. Non, mais Minnesota, ils ont d'autres joueurs défensifs. Jalen McDaniel, ils ont des mecs qui peuvent défendre.
Très, très fort.
C'est très bon, mais attention, ils sont partis sur les bases pour le plus grand nombre de victoires pour l'histoire de la franchise, les Wolves. Donc à un moment donné, si tu gagnes 55 matchs la saison, que t'es premier ou deuxième et que t'as l'avantage du terrain quasiment au bout, jusqu'au bout, pourquoi il serait pas candidat au titre NBA?
T'y crois, Arnaud?
Peut-être que
lui, c'est il a fait l'amour par exemple là, tu vois.
Peut-être que c'est trop tôt, avoir un peu de vécu de playoff à l'image de Denver qui a pas été championne. Les Nuggets n'ont pas été champions tout de suite. Hein. Ils ont dû faire quelques campagnes et désillusions en play-off. Et il manque peut-être un petit truc. Mais après, quand tu fais un tel bilan à mi-saison, tu ne peux pas ne pas les écarter. En fait, franchement, ils sont là. Mike Conley, toujours précieux, vraiment en meneur vétéran.
Mike Conley perd 1,2 ballons par match.
Incroyable.
Tu te rends compte de ce que c'est, vous ?
Surtout en NBA.
Oui, et surtout au meneur de jeu où il joue beaucoup de pick-up. C'est ouf, perdre.
Il y a un autre joueur qui perd très peu de ballons, c'est Maxi, justement.
Maxi, ouais.
Il perd très très peu de ballons. Il a pourtant normalement.
Après, alors, sauf le match. Il shoot, donc il.
Ben, c'est mieux. On nous a toujours dit un mauvais shoot, c'est mieux qu'un ballon perdu.
Exactement.
Sinon, quelqu'un a des nouvelles de Evan Fournier ? T'as pas reçu un petit WhatsApp récemment ? Steve, il joue toujours en basket.
Il a joué 5 minutes l'autre fois. En fait, Evan, il joue quand il a eu des trades et que les mecs sont pas encore arrivés dans l'équipe. Mais sur Evan, il n'y a rien à dire. Il faut juste attendre le 8 février, la deadline pour les trades.
Qui va récupérer le contrat d'Evan ?
Mais c'est possible le packaging avec Grimes ?
Je sais pas.
Parce qu'au départ, je pensais que ça serait avec Quickly et ça c'était hyper intéressant pour tout le monde. Et là, ça, c'est peut-être plus compliqué.
Après, l'avantage d'Evan Fournier, c'est qu'il est en fin de contrat. Donc, une équipe qui voudrait libérer de la masse salariale pendant 6 mois peut accueillir Evan Fournier, sachant que c'est une team option et pas une player option. Donc, ça peut intéresser une équipe qui voudrait libérer 16 millions de dollars.
Là, il faut absolument qu'avant le février, ils partent. Hein, parce que là, ça va faire un an et demi sans jouer.
Bon. Un des enjeux du troisième débat sera de savoir si vous l'emmenez ou pas et avec quel rôle aux Jeux Olympiques de Paris, puisque ce sera tout à l'heure. Mais d'abord,
on a fini là ?
Oui, on a fini. Tu veux dire, rajouter un mot ?
Non, sur NBA, mais
Franck Ntilikina.
Je peux dire un petit mot sur Kylian Hayes ou pas ?
Vas-y, je t'en prie.
Alors, Kylian Hayes, qui joue dans la pire équipe de la Ligue, et comme son équipe, en fait, des trois, il ne progresse pas. Pour moi, je ne vois aucune progression. Les pourcentages sont dramatiques. Il a 27% à 3 points, 40% d'adresse globale. Les dernières années, c'était lui qui avait le pire efficiency au tir, efficiency field goal. Alors, il fait des passes, il a 5 passes de moyenne, mais il joue dans une équipe pourrie et il n'y a pas de grosse perf, en fait. Y a pas, parce que quand tu joues des équipes pourries, André Cunningham a fait des énormes perfs, Jalen Duren a fait des énormes perfs, il y a des mecs. Et lui, il ne fait pas d'énormes perfs et il a démarré 27 matchs la saison, donc il a été starter, donc il a eu la confiance du coach. Il a un mois de janvier cata, il a 1 sur 10 à 3 points. Moi, je suis désolé, les Pistons ne l'ont pas prolongé. Il avait 7 années pour prouver. Moi, je suis inquiet sur son avenir en NBA, à Kylian Hayes, au même titre que Théo Malédon.
Oui, au même titre que Théo Malédon, clairement.
C'est ce qui est inquiet, vraiment, et tu l'as dit avec Kylian Hayes, c'est qu'il a été...
C'est un 7e choix de la draft, hein. Ouais. Je le rappelle quand même. Hein.
C'était avant Victor, c'était le plus haut, hein. Kylian Hayes. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il a eu l'opportunité de se montrer avec des 30 minutes, parce que Jaden Ivey était sur le banc, là, Cunningham est encore out, et tu vois, on sent qu'il n'arrive pas du tout à percer dans cette équipe, alors que, franchement, t'avais la place, tellement c'est mouvant que les rotations évoluent sans cesse, sauf qu'il a fini par retourner sur le banc.
Alors, c'est un Basket Time spécial bilan de mi-saison. Nous allons passer à l'Europe. Basket Time que vous téléchargez tous les mardis sur rmc.fr. Poirier, Chacho for Poirier, another alley-oop. Colo looks for no look pass to Cahoudi. Casse le sort qui fixe et qui ressort. Et encore un panier. Casse le sort qui attaque. Oh, Casse le sort qui a été arraché le cercle. Yabusele de 3, triple de Gerson. Yabusele. Francisco gets it away. Of course he has. Poirier from the outside counters for the big man. Oh, and a rejection from Luau Cameroon. Chacho Poirier, la esquina de Yabusele, remonta línea de fondo, viene Yeh. No. Bueno. Pero madre mía, Gerson es un pájaro. Es un avión. Alors, qui est le meilleur français d'Euroleague? J'ai l'impression que les Espagnols se régalent avec le nom de Gershon Yabusele. C'est difficile à prononcer. Alors, on a sorti quelques noms. Mathias Lessort, Gershon Yabusele, Moustapha Fall, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier. Les Français brillent en Euroleague. Arnaud, il y en a peut-être quand même quelques-uns à sortir du lot. Hein.
Bah écoute, je vais prendre celui qui est tout simplement cinquième à l'évaluation en Euroleague, c'est Mathias Lessort avec 19, 14 points, 6 rebonds exceptionnels avec le Pana. Il nous avait manqué à la Coupe du Monde en Indonésie, il était présent mais diminué une cheville, il n'avait pas pu avoir son impact. Il a digéré de manière magnifique son transfert du Partizan au Pana, dans certes aussi un cadre aussi chaud, hein, le Partizan, mais avec beaucoup plus d'attentes. Donc Mathias Lessort, vraiment saison incroyable pour l'instant. Ensuite, la deuxième éval, c'est Moustapha Fall, avec 15 dévals en 23 minutes seulement pour le pivot de l'Olympiakos, 7 points à presque 80% de réussite, 5 rebonds. Ensuite, on trouve Nando Docolo, 13 déval, et pourtant, en 20 minutes, pourtant, Nando Docolo est blessé depuis un moment au mollet. Ensuite, Vincent Poirier, Geoffrey Lauvergne sont à 13 d'évaluation, 18 minutes. On a du Gershon Yabusele aussi. Vous savez, l'Euroleague, vous avez moins de temps de jeu à 32, 35 minutes. Donc, vraiment, c'est de la rentabilité pour tous ces joueurs. Luo Cabarro revient bien aussi avec l'Asvel. Il s'était un petit peu perdu à Milan et il fait des choses. Sylvain Francisco, 11 points en sortie de banc au Bayern. Là aussi, c'est une satisfaction pour lui qui découvre l'Euroleague. Et puis, on a Isaiah Cordinier qui fait de bonnes choses aussi à la Virtus dans des rôles. La peut-être déception, c'est Elie Okobo. Toutes ses stats sont en baisse. 8 déval en seulement 25 minutes pour le joueur de Monaco, récemment qui a retrouvé sa place dans l'effectif après avoir été exclu pour des manquements à la vie collective du groupe.
Alors, qui est le meilleur français d'Euroleague, Fred ?
C'est pas très dur. C'est Mathias Sessor. Mathias Sessor, il est juste monstrueux. En plus, Arnaud le disait, il adore cette ambiance complètement folle. Les Grecs, c'est des fous. Lui, il adore ça. On se rappelle qu'il allait communier avec les mecs, les Serbes dans les tribunes. Donc voilà, Mathias Sessor est très très bon, très efficace, gros pourcentage, grosse activité, gros cœur, grosse énergie.
Ne négligeons pas quand même Mustapha Fall qui, avec beaucoup un temps de jeu bien réduit par rapport à celui de Mathias Le Sort, je ne sais pas si tu as donné la.
23 minutes pour Mustapha Fall, oui.
Et combien pour Le Sort ?
Le Sort, j'aime 37.
27, 27.
Ah oui, il n'y a pas tant d'écart que ça. Bon, il est peut-être moins exposé, mais il est très, très, très efficace.
Il peut être très efficace, il a une grosse qualité, c'est le jeu de haut panier qui nous manque souvent avec l'équipe de France et en général dans le basket moderne. Mais j'ai choisi Mathias Le Sort parce qu'ils sont quatrième. Et que l'Olympiakos, ils sont sixième. Et donc, je me dis, être un joueur aussi important, aussi clé dans l'équipe qui est quatrième, c'est plus important.
Et puis Arnaud l'a souligné, le changement d'équipe, il est aussi efficace et aussi important qu'aux partisans. Et ça, c'est quand même
alors
pas.
Alors qu'en fait, il y a une stabilité.
Monde, hein.
Il est à l'Olympiakos depuis quelques temps maintenant. Et c'est pas tout à fait pareil.
Steve.
Bon, enfin, on est obligé de parler de Mathias, hein, qui a quand même fait 42 d'évaluation contre Monaco. Un seul match en dessous des 13 d'évaluation, régularité exceptionnelle. Donc, bon, rien de plus à dire sur Mathias. Un mot sur Mousse aussi. On pensait qu'il allait perdre des minutes avec l'arrivée de Milutinov, mais finalement, il se partage bien les minutes. Et souvent, quand il y en a un qui est blessé, l'autre n'est pas blessé, et vice-versa. Il a un passage à un moment donné où Milutinov est blessé, où il fait triple-double dans le championnat grec. Il fait 8 comptes contre l'Asvel. Il a 25 d'évaluation sur l'absence de Milutinov sur la période. Mais Vincent Poirier, pour moi, est très intéressant.
Ah.
Vincent Poirier est très intéressant. Pourquoi déjà ? Parce qu'il joue dans l'équipe qui marche sur l'Euroleague, enfin qui marche sur l'Europe d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont perdu 3 matchs sur cette compétition-là.
Sa relation avec Kachou.
Oui, qui joue 18 minutes et qu'il a presque à 14 d'évaluation en 18 minutes seulement. Rentabilité exceptionnelle. Il est presque à 2 comptes par match. Et puis Fred l'a dit, il a créé quelque chose avec Chacho Rodriguez et Facundo Campazzo. Ce alley-oop où il fait semblant de monter à l'écran et un petit regard, il spin, il part au cercle un peu l'époque Shaq Kobe. C'est incroyable la rentabilité. En fait, Mousse Fall, Milutinov, c'est peut-être la seule doublette en Europe capable de rivaliser avec Tavares Poirier. Sinon, il n'y a pas photo. Donc, ce que fait Vincent Poirier dans la meilleure équipe d'Europe, j'ai envie de lui dire bravo, mon grand.
Très bien. Pour les autres, alors, Rodrigue Beaubois, est-ce qu'il fait partie de ces Français qui vous étonnent cette saison d'Euroleague ?
Il ne m'étonne plus. Rodrigue Beaubois, depuis le temps qu'il fait ça, c'est une journée au boulot, lui.
Oui, mais ce n'est pas tous les jours.
C'est pas tous les jours.
Il a des matchs moins bons. Ouais,
mais
rôle, c'est
stabilité
quand
même.
C'est un score, Rodrigue. Donc des fois, s'il est un peu moins bien sur le tir à 3 points, il va pas faire de perf.
C'est 52% à 2, 40% à 3.
Il a mis 21 pions en 19 minutes contre le Barça. Après, il a loupé 5 matchs. Maintenant, il paye un peu l'Anadolu. L'Anadolu, qui est l'équipe la plus décimée, je pense, de l'Euroleague. Jamais une fois, ils ont joué au complet. Donc ils sont pas bien au classement.
Très mal, même.
Mais Rodrigue, c'est une valeur sûre de l'Euroleague. Il faut s'arrêter sur ce que fait Isaiah Cordinier. Je pense. Dans une équipe, Virtus, qui est la surprise de la compétition, qui est deuxième ex aequo avec Barcelone, qui est starter à tous les matchs. C'est sa deuxième saison seulement d'Euroleague. Il est presque à 10 points de moyenne, il a plus de 10 évaluations. Il a 45% à 3 points, sur un petit volume certes, mais il met dedans, c'est-à-dire que tu ne peux plus le laisser tout seul. Il a de l'activité, il progresse ballon en main, il joue des pick and roll, il est meilleur sur la lecture, il est quasiment à 3 passes de moyenne, il y a des gros progrès là-dessus. Ce que fait Isaiah Cordinier avec Luca Banchi, qui est un fantastique coach, qui est peut-être le meilleur coach de l'Euroleague.
Il nous a tapé avec la Lettonie.
Moi, j'adore ce que fait Isaiah Cordinier à la Virtus.
Après, okay. Sylvain Francisco aussi, parce que même si son équipe du Bayern ne va pas super bien, ils sont 14e, Pablo Lasso l'adore. On sait quand même que Pablo Lasso, c'est quelqu'un de très exigeant, c'est quelqu'un qui connaît très bien le basket. Et pour qu'un coach comme ça adore à ce point Sylvain Francisco, c'est qu'il
leader a pas en sortie de banc. Hein,
il marque des points pour l'équipe de France ou on n'en est pas là, puisqu'on cherche un meneur. Ouais, pour toi, oui, Arnaud.
le fait de prouver en Euroleague, parce que l'année dernière, il a fait la Coupe du Monde, il n'était pas en Euroleague, il était en Italie, c'est ça
Non, il était à Péristeri,
en Péristeri,
Grèce.
Grèce, pardon.
Il jouait en BCL, je crois.
C'est pas parce que ça finit en IS en Italie.
Et ouais, Sylvain Francisco, vraiment, de le voir, parce que c'est toute la clé. Est-ce que tu es capable, quand le niveau s'élève, d'élever aussi ton niveau? Et pour moi, Sylvain Francisco est en train de le prouver. Ma déception, je l'ai dit un peu, c'est Elie Okobo quand même, je trouve, dans nos Français d'Euroleague.
Oui. Alors vous ne me parlez pas de TLC, qui est quand même le meilleur marqueur français en Euroleague
oui,
cette
c'est
saison.
Bien, le problème c'est que il est dernier du championnat. Alors oui, il a fait des choses. Il a mis 27 contre le Zagiris, il a énormément de responsabilités, il a parfois des flashs de joueurs de très haut niveau, mais maintenant il n'est pas aidé par cette équipe-là.
Oui, mais tu as dit aussi, des flashs.
C'est-à-dire que c'est le Washington, le droit de l'Europe, Laswell.
Il manque de constance, souvent sur les fins de match, il fait des choix cata. Pozzecco lui faisait monter le ballon parce qu'il n'y avait pas de backup à Paris Lee, et là c'était un carnage, il envoyait des ballons en tribune, et cheerleaders sont partis avec 5 ballons Spalding. il a des choses qui peuvent faire de lui un très bon joueur, mais je trouve qu'il manque de constance, il manque de dureté parfois. Maintenant, ça vaut quoi 14 points chez une équipe qui a gagné 4 matchs? Je ne sais pas ce que ça vaut en fait.
Est-ce que Laswell serait bien meilleur avec Nando? Non, avec Nando. Est-ce qu'il serait lui mieux aidé, plus épaulé?
Clairement.
Ça compte quand même, non?
Bien sûr que ça compte. C'est pour ça que je te dis que le fait qu'il soit obligé de jouer meneur parce qu'il n'y a pas de deuxième meneur dans cette équipe-là fait que ses prestations parfois ont été ternies.
Et ça devient dur de le juger du coup.
Oui, mais de temps en temps, il a des choses de ce niveau.
Il s'est relancé quand même, c'est plutôt positif.
Oui, c'est plutôt positif. Je peux un petit big up à Damien Guis aussi.
Bien sûr.
Qui découvre l'Euroleague avec Valence, lui qui a toujours joué en Eurocup ou en BCL, qui fait une belle petite saison dans une équipe qui gagne quelques matchs. Il est quasiment starter. Il a été appelé dans le groupe des 13 par Vincent Collet. Ça veut dire que quand t'es bon en Euroleague dans une équipe qui joue bien en basket, Vincent Collet te regarde.
C'est logique finalement.
Ouais.
Sur l'Euroleague, au-delà des clubs français, le Real injouable, ça va durer toute la saison ça?
Bah logiquement oui, mis à part blessure,
vraiment Monaco leur a mis une bonne.
Oui, alors attention, il y a Real Madrid avec Tavares et Real Madrid sans Tavares, c'est pas la même.
Bah bien sûr.
Je dis tout de suite. Monaco les a sifflés parce qu'ils ont fait un match exceptionnel.
Oui, et puis ils étaient très 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 diminués. Il manquait pas que Tavares.
Il manquait Tavares et Loul.
Poirier, non?
Non, il a joué Vincent.
Il a joué.
Oui. Il manquait que
deux joueurs.
Que Loul et Tavares.
Ok. Mais oui, donc pas forcément toute la saison, donc Steve.
Si Tavares loupe énormément de matchs, c'est plus la même équipe. Ce mec-là, c'est un game changer. C'est la nuit et le jour, et quand il est là, c'est la nuit pour les autres, justement, parce que c'est le meilleur défenseur de la
ligue. T'es bien retombé sur tes pattes. Ouais, c'était pas mal barré.
C'est compliqué, oui.
Ok. Donc...
Et Fabien Causeur qui fait toujours son petit bonhomme de chemin au Real. Voilà.
Donc.
Il est au Real. Que ça, c'est admirable.
6 ans, je crois.
Peut-être plus même, non? Franchement, j'ai l'impression que ça fait depuis toujours qu'il a toujours signé.
Real champion d'Europe, vous signez dès demain?
Pardon?
Real champion d'Europe, vous signez dès demain?
Demain, je sais pas, mais aujourd'hui, oui.
Le Pana peut pas les embêter, non?
Et les embêter, oui. C'est des équipes de rugby qui ont du niveau, bien sûr.
Le Barça a eu un passage très difficile là récemment, quand même. Même si ça va un peu mieux, je sais pas si c'est puisqu'ils sont deuxième, je dis ça. Hein.
Oui, mais ils ont perdu des matchs.
Oui, c'est ça. Ils ont eu un passage très difficile là, quand même. On les a vus en dessous, nettement en dessous du Real.
Ils avaient un coach rookie aussi. Hein. Donc,
qui a failli sauter et il gagne justement ce match contre le Real.
Après, le Real va terminer premier de la saison régulière, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'avantage du terrain en quart de finale. Et après le Final Four, tu jettes la pièce, mais elle tombe souvent du côté du Real Madrid, la pièce.
Comme au foot.
Est-ce qu'on a fait le tour sur l'Euroleague?
Ils n'ont pas besoin d'arbitrage.
Sur le bilan mi-saison et sur les joueurs français.
Je ne sais pas si on a parlé de Gershon.
On a même pas parlé de. Oui, Gershon, vas-y.
Ouais. Gershon, qui
revient de blessure.
Il a commencé sa saison, en fait.
Oui, je suis d'accord, mais il s'est blessé, mais c'est quand même un joueur qui est hyper apprécié là-bas, qui est hyper intense, un joueur important, cette équipe, et qui a dit il n'y a pas longtemps je préfère être ici qu'aller cirer le banc en NBA. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure.
On n'a pas parlé de Monaco, qui est 7e, donc. Bon, mais avec un bilan très correct, hein, de 12 victoires, 10 défaites, dans une ligue, on le rappelle, hein, qui est très serrée. Monaco, toujours.
Ouais, mais t'as pas vraiment de Français qui dominent.
Non, mais bon,
c'est bien. Dans cette équipe de Monaco, il y a
Okobo,
Tarpe, Ouattara, Strazel, Corneli, JT.
Non, mais sans parler des joueurs, sans parler des individualités, comment vous voyez la saison de Monaco en Euroleague là?
Monaco, il faut qu'il soit dans les 6.
Oui, d'accord, mais
c'est pas cadeau d'être dans les 6. Hein.
C'est ça.
Vu la densité de
ils sont surtout pour garder sa place en Euroleague. C'est aussi ça l'enjeu.
Oui. Il y a un play-in maintenant, cette année en Euroleague.
T'as raison, l'enjeu il est là aussi, Arnaud.
Être pérenne et rester en Euroleague.
Si ils sortent 7e, c'est fini l'an prochain, plus d'Euroleague?
j'en sais rien, gros. Je comprends plus rien. C'est tellement politique, c'est tellement. Tu sais pas.
Le règlement, c'est dans les 8.
Il y a Dubaï qui va arriver, Pierrot.
Mais là, avec le play-in.
Ça, c'est incroyable. Non, mais ça, faudra en dire un mot un jour, quand même.
Alors, on a bien dit les mots de l'Afrique du Sud en Champions Cup. On peut dire de Dubaï en Euroleague.
Non, mais Dubaï en Euroleague, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment les ligues fermées. C'est-à-dire qu'on change complètement d'univers. Là, c'est plus du tout pareil.
Il y a une franchise juste ouverte de 3 centimètres.
Il faut changer le nom déjà.
Il faut changer Euro, par exemple.
Changer le nom.
Super League.
World League, ou je sais pas.
Dubaï League. Le Dakar, et ça n'a plus à Dakar non plus.
Et c'est aberrant.
Oui, c'est aberrant. Sauf que ça n'a pas changé. Du coup.
Le rugby, ils ont changé le nom.
Le rugby, ils ont changé de nom, exactement. Ouais. La Champions Cup au lieu de la Coupe d'Europe, exactement. Ouais. Allez, tout de suite, on continue sur ce bilan de mi-saison avec l'équipe de France.
Voilà, revenir en équipe de France, jouer avec mes potes pour défendre le maillot bleu, c'est la définition du sport.
Gobert, right down, Hennepin, dunk and the foul.
As I said, I want to play every time, so yes, if I'm selected, if I'm available, I want to play, of course.
Bilal, je suis très content de ses débuts.
There's a block by Koulibaly. Wow, Koulibaly's defense is elite so far.
French fans will be expecting a drastically improved showing at the games after a disappointing World Cup campaign.
Si on veut faire quelque chose de grand l'année prochaine, et tout le monde doit essayer de comprendre ce qu'il a fait de mal et ce qu'il a fait de bien.
Batum, bonjour Méchon, as he flushes it in.
Ouais, on a un stade là où c'est leur envoyer.
Fournier, step back three.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Bonjour méchant.
Le Rikas.
Il voulait dire monsieur, non?
Bonjour méchant.
Ouais, il voulait dire bonjour monsieur, hein. Je sais pas. Bonjour méchant.
C'est pas grave, là, ils captent pas. Ils ont l'impression que ça déchire ce qu'il a dit. Oui.
Emily in Paris, au Batum.
Dorian Pierre.
Bon, on va voir si votre sélection pour les JO a changé par rapport au début de saison, puisqu'on a déjà fait ce petit jeu une ou deux fois. Donc, vous allez choisir l'équipe qui va rentrer dans l'histoire, puisqu'on est dans la partie historique pour les JO de Paris.
Pour rentrer dans l'histoire, faites champion olympique.
C'est vrai.
Parce qu'on est deux fois vice-champion olympique.
Tout à fait. Donc, si tu veux, tu peux mettre Embiid dans ton équipe.
Là, ça me plaît.
Tu commences, Fred ?
Si tu veux.
Vas-y,
je commence t'écoute. Avec le 5 majeur et je te fais toute l'équipe.
Le 5 majeur et voilà, et le banc, exactement.
Bah alors, Nikina.
Nilikina, tu gardes
le 5 majeur. 5
majeur, ça ? 5 majeur. Nikina, Cordinier, Koulibaly, Wemby et Gobert.
Alors, je note et après, on te questionne. D'accord ? Comme si t'étais chez les flics.
Ok.
Nilikina, Cordinier, Koulibaly, Wemby et Gobert. Donc déjà, tu mets les deux.
Oui.
Ok, ça, il n'y a pas de débat.
Non, il n'y a pas de débat.
Pas de débat.
Je suis une zone 3-2.
Ok, tu mets...
Ouais, va
tu
marquer les points à l'intérieur.
Tu mets pas Batum dans le 5 majeur.
Non.
Pourquoi ? Justifie.
Bah, c'est assez simple. Je pense qu'il n'a plus les cannes pour jouer autant. Et on le dit souvent, c'est important de finir les matchs. Je pense que Batum peut être là, justement, sur les fins de match, pour être un peu plus frais. Koulibaly, il a l'énergie. Il a ce qu'il faut aussi pour que ça se passe bien. Il connaît bien Victor. Moi, je pense que ça peut être très intéressant, de l'énergie d'entrée. Et ce 5 majeur-là, c'est la muraille de Chine. Parce que pour aller marquer des points avec ses garçons sur le terrain, courage.
Parce que Cordinier est aussi un bon défenseur.
Très bon défenseur. Nikina, des bras énormes. Koulibaly, des bras énormes. Et à l'intérieur, j'en parle pas.
Tu maintiens ta confiance à Franck.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'il revient de blessure et que j'espère qu'en attendant, il aura quelques minutes, qu'il pourra jouer un petit peu. Et concrètement, on l'a vu en FIBA, il peut être très bon. En 2019, il avait été très bon en FIBA, je pense qu'il peut être intéressant.
C'est pas bien attends, tu te prends pour Pierre de la PJ, là, gros.
J'ai dit, c'est
il m'a mis de la lumière en tronche, là.
Et encore, je suis gentil dans ma façon de parler. Hein.
Ouais,
t'as pas sorti l'annuaire pour lui mettre des coups.
Non, mais il n'y a pas. Alors, dans un 5 très défensif, ça vaut pas le coup de mettre un meneur qui score, un meneur peut-être un peu plus foufou. Tu veux pas reprendre Thomas Hurtel, par exemple?
Non, j'ai envie qu'on reprenne sur ces bases défensives qui ont fait notre force. Donc je me dis que directement, on commence avec la grosse défense. Après, j'ai hésité entre Nikina et Amici.
On gagne 65-52 la plupart des matchs.
Je m'en fous, t'es champion olympique, tu gagnes de 2 points et tu mets 50 points de moyenne, ça me va très bien.
Et alors, t'es tombant.
Donc Albici,
ouais.
Batum,
okay.
De Colo, Le Sor, Gershon, Poirier, et là j'ai un problème.
Il te reste une place ?
Il me reste une place et j'ai deux joueurs et j'hésite vraiment entre les deux.
Alors,
il y a extérieur,
Fournier et Beaubois.
Ouh !
Eh ben, tu sais quoi ? Je prends Beaubois.
Ouais, bah là, pour Evan, il joue plus, quoi.
Bah,
tu prends les opportunistes.
Ça fait un an et demi qu'il joue pas. C'est une vraie problématique. Alors, c'est à l'instant T, hein, parce qu'il joue pas. Si ça se trouve, il va recommencer à jouer et je remettrai Fournier, évidemment, dans le truc. Mais un mec qui a pas joué pendant presque 2 ans, bah, je préfère un Beaubois.
T'as beaucoup d'intérieur, là, tu prends pas Mousfal ?
Non, Non, je ne prends pas Moussa parce que lui, il n'a pas envie de venir.
On ne peut pas jouer à 5 intérieurs parce que là, quand même, c'est exceptionnel. On a toujours manqué d'intérieurs.
C'est ça.
Et là, on manque d'extérieurs.
On a tout. On a tout ce qu'il faut.
Mais je trouve que c'est hyper. Ce que je propose, c'est hyper complémentaire. Tu as Gobert, Wemby, Poirier, Gershon, Le Sort. Ça peut alterner, ça peut jouer ensemble, ça peut faire des duos hyper intéressants, ça peut courir. Et dans le cas le plus dur, tu peux même mettre Batum en 4.
Et avec ça, tu fais quoi au jeu ?
Je pense que tu peux faire une demi-finale.
Donc bon. Bobois, qui n'a jamais voulu venir en équipe de France et qui là se réveille, toi, ça ne te pose pas de souci de le prendre et d'écarter Fournier juste parce qu'il ne joue pas un an et demi.
J'ai l'impression qu'il y a un collègue de Pierre.
Alors,
Comico, il y a un collègue de Pierrot qui est arrivé.
Je vais te répondre. Donc, toi, tu préfères prendre un mec qui n'a pas joué depuis deux ans qu'un mec qui
perd un mec qui aime le maillot, qui a déjà répondu et qui a déjà eu des titres avec l'équipe de France.
Oh, donc, tu préfères perdre. Ok, pas de problème. Moi, je constate que c'est
préfère avoir des valeurs.
Et en 2016, c'était intéressant ce qu'on a fait d'ailleurs de faire la tournée des Beatles. Ça nous a bien
pas Fournier. 2016.
Oui, mais on a pris tous les anciens qui, juste parce qu'ils avaient joué.
Bobois, c'est un ancien aussi, et puis il n'avait jamais joué.
Oui, mais on va voir lequel des deux est le plus intéressant.
Bon, Arnaud, le 5 majeur.
Arnaud a pris son taser. Attention, Fred.
Alors, est-ce qu'on peut naturaliser Mike James ? C'est autorisé ?
C'est mort.
Non. Non, je rigole.
Non, mais c'est super.
Le mec, on a du valeur. Il a dit ça il y a une minute. Est-ce qu'on peut naturaliser Mike James ?
C'était la boutade.
Alors là, le cancer que tu te mets, quoi.
On rigolerait bien. Je suis parti du principe qu'on ne pouvait pas prendre Thomas Hurtel. Donc j'ai vécu que trois changements.
C'est important de le dire. Pour moi, il est sélectionnable. Hein.
Je ne fais que trois changements par rapport au vice-champion olympique de Tokyo. Donc mon 5 de départ. Franck Ntilikina, Nando De Colo, Nicolas Batum, Victor Wembanyama, Rudy Gobert.
Alors là, va falloir nous expliquer parce que là, tu prends le risque de revivre la dernière Coupe du Monde avec des mecs un peu fatigués, dépassés, et tu régénères que avec Victor.
Oui, mais c'est pas grave. Il veut relancer des mecs. C'est important.
Non, tu peux mourir avec tes soldats.
En backup, il prend Jacques Cachemire et Mathieu Bisseni,
Jim Bilba.
Non, Ntilikina pour les arguments de Fred. Je mets Nando, à condition évidemment qu'il revienne et il faut qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu.
Il va jouer.
Voilà, parce que d'avoir cette touche créatrice dans mon 5 de départ, Nicolas Batum, parce qu'il se rend si indispensable en gardant ce rôle aux Sixers qu'il avait aux Clippers, ou Wembanyama Gobert dans la raquette. Et donc, sur mon banc, pour les meneurs, Andrew Albici, Sylvain Francisco.
D'accord.
Albici qui est rappelé là par Vincent Collet pour la fenêtre internationale. En backup sur le poste 2, je prends Evan Fournier, que je fais donc sortir du banc.
Pour les valeurs.
Voilà, exactement. Mais aussi par conviction, parce que je pense qu'en leader de la deuxième unité de l'équipe de France, ça peut vraiment être option. Après la saison que tu as fait, je pense que tu peux qu'accepter. Bilal Koulibaly en rotation bon Nicolas Batum. Et à l'intérieur, là aussi, comme Fred, je pars avec 5. En plus de Gobert et Mbanyama, Yaboussélé, Le Sort et Poirier. En partant du principe que Mustapha Fall, qui n'est pas là, appelé par Vincent Collet pour la fenêtre,
est blessé
aussi. Mais
oui, attention, hein. Il n'ira pas.
Non.
Il ne veut plus.
Mais je crois qu'il n'en veut plus. Non.
C'est dommage. Steve, à toi.
Alors moi, je vais commencer par les valeurs. Thomas Hurtel est sélectionnable. voilà. S'il faut commencer par les valeurs, on va commencer par là. Mon 5 de départ, Andrew Albici. Vu comment Vincent a fait son mea culpa après la Coupe du Monde en disant qu'il regrettait de ne pas avoir pris Andrew, je me dis qu'Andrew a déjà été starter dans cette équipe-là et qu'il sera starter. Sur le poste 2, je prends Bilal Koulibaly. Là, parce qu'on veut réinjecter un peu de défense et que Bilal Koulibaly, il a 40% à 3 points, donc si tu le laisses tout seul, il est capable de mettre dedans. Sur le poste 3, je remets Evan Fournier parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de mettre des points. Titulaire, tu vas avoir besoin d'un mec capable de mettre des points. Et quand tu n'as pas joué pendant 6 mois et qu'en première mi-temps, tu es le seul à mettre des points face au Canada, je me dis que ça peut servir. Sur le poste 4, je mets Gershon Yaboussélé. Et sur le poste 5, je mets Victor Wembanyama.
Voilà la révolution. La révolution. Il a mis Victor en pivot, ce qui est d'ailleurs le poste où il brille avec les Spurs, et Gobert sur le banc.
Je pense qu'on FIBA, ça
va. À moins que tu penses sans Rudy au JO. Toi-même, Rudy, que c'est lui qui ne va pas être dans le 5.
Peut-être que vous allez avoir une surprise sur les remplaçants. Il y aura peut-être Poirier.
Alors, en remplaçant
Mustapha Fall.
Sur le poste de meneur de jeu, je pars avec trois meneurs de jeu parce qu'on sait ce que nous a coûté à Manille. Donc, Thomas Hurtel et Franck Ntilikina. Sur les postes extérieurs, en plus de Bilal et Evan Fournier, je prends Isaac Ordinier et Rodrigue Bobois. À l'intérieur, je prends Nicolas Batum sur le poste 4 exclusivement, et s'il a besoin de jouer grand sur le poste 3, il pourra se décaler. Et à l'intérieur, je prends Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Mathias Le Sort, parce que pour moi, Wembanyama peut faire la
Victor,
maille.
Victor, tu l'as déjà 4... mis dans le 5.
Oui, je prends Gobert et Le Sort sur le banc, parce que Victor peut jouer en 4 et en 5, et que si tu prends Vincent Poirier ou un Mousfal, ça sera trop, ça servira à rien, le mec ne jouera jamais.
Et alors, pourquoi Yaboussélé est titulaire ?
Il y a Boussélé titulaire parce que si tu fais Victor, si tu mets Victor en 4 et Rudy Gobert en 5, je trouve qu'à un moment donné, il faut injecter une culture de basket FIBA et de connaissances Euroleague. Et donc je me dis que Gershon Yabusele sur le poste 4 peut apporter ça.
Il est peut-être un peu plus scoreur aussi que Rudy.
Justement, c'est pour ça que je mets Victor en 5. Ouais. C'est pour ça que je mets Victor en 5 pour avoir. C'est ta Fournier et Wembanyama qui peuvent mettre des points. Yabusele qui peut en mettre. Et t'as Albisi Koulibaly qui sont tes deux têtes d'affiche devant pour mettre une pression défensive.
C'est plus offensif que Fred. Hein, bah c'est d'ailleurs le tempérament de Fred. Non,
c'est la guerre.
Mmh. Voilà.
Très bien. Donc on a 3-5 très différents. On n'a pas Fournier partout. Donc Fred, pour l'instant, tu fais l'impasse.
Je crois qu'il n'y a que moi qui n'ai pas pris Nando de Colo.
Personne n'a. Ah, tu prends pas Nando, toi.
Non.
Trop tard. Finito.
Non, moi, je suis la synthèse.
Pas de sentiment, pas de valeur.
Moi, j'ai deux Nando.
Je sais pas, s'il faut faire une révolution et éviter ce qu'on a pu faire.
Justement, Arnaud, lui, avec ses sentiments, tout le monde sera content. On va sortir en poule.
Lui, il va aller à Lille la première semaine. Après, il va rentrer la queue entre les jambes. Il y avait des valeurs. Hein, il y avait des mecs.
On allait faire le 3-3. Hein.
Et vous avez fait des choix forts. Donc, l'un prend pas Fournier et l'autre prend pas. C'est qui ton grand absent?
Nando.
Oui. C'est dur. De toute façon, ça va être comme ça. Hein.
Et je prends que deux vrais pivots et Victor en hybride 5.
Et à votre avis, qui sera la victime? Parce qu'il y aura une victime importante hein, dans ces 12, hein, c'est ça, pour les JO. Hein.
Ouais.
Qui sera la victime de Vincent Collet?
Moi, je maintiens Fournier.
Toi, tu penses que ce sera Fournier?
Ouais. Si Fournier ne joue pas, il n'ira pas pour moi.
Steve?
Moi, je pense qu'il va jouer, en fait. Je pense qu'il va être tradé, donc je ne pars pas de l'optique.
Non, mais si tu te mets à la place de Vincent Collet.
Bah, je prends pas Nando.
Ce sera Nando et toi, Arnaud? Je vous parle pas de ce que vous voyez, mais
c'est plus peut-être à l'intérieur.
Il y a un Petrus qui devrait venir aussi avec Arnaud.
Un Vincent Poirier qui était déjà pas là à la Coupe du Monde, et ça me fait du mal quand je vois sa saison et son état d'esprit. Mais il y a trop de monde.
Tu vas pas compenser tout le monde. Le sort, la façon dont à la Coupe du Monde Vincent Collet a attendu jusqu'au dernier moment pour remettre Mathias Lessort dans l'équipe me fait dire que Mathias Lessort, en plus avec la saison qu'il est en train de faire, il est dans les 12 au jeu.
Très bien. Et alors, dernière question, je l'ai posée à Fred. Pour toi, ton équipe, elle fait quoi au jeu, Arnaud?
Dernier carré.
Et toi, Steve?
Moi, elle fait demi-finale.
Vous êtes tous en demi, c'est
bien, t'as deux matchs à gagner pour une médaille. C'est sympa, non?
Vous êtes.
Je fais demi, là.
Triturer les méninges pour faire.
Après, je suis content parce qu'il n'y a pas très longtemps, Pierre, moi j'ai dit à tout le monde qu'on ne ferait pas de médaille. Donc là, je dis demi, il reste une option.
Le réservoir, on a repris confiance un peu.
Mais en fait, tout a changé. C'est-à-dire qu'on a enfin des matchs amicaux qui vont être intéressants. Je pense que ces mecs vont être challengés vraiment.
Donc
je
me dis que.
Et Wemby qui est très fort. Et Koulibaly qui émerge aussi.
Et sur le dossier Thomas Hurtel. À partir du moment où ça a été acté, je crois, par le CIO, que les athlètes russes seront à Paris, expliquez-moi comment on peut ne pas sélectionner Thomas Hurtel. Bon, il faut m'expliquer.
Allez, on va terminer avec le quiz.
Kawhi Leonard. Ah, Carmelo Anthony au Madison Square Garden.
Absolument pas, Stéphane Brun. Vous êtes tellement mauvais, ça me fait kiffer.
Quel porciné peut shooter sans scrupule?
Quel croquette.
Je commence.
Bah, quel salaud, celui-là.
Un indice, c'est la machine à triple-double.
Oh, yeah, Nicolas. Russell Westbrook. Ah, ok, si.
Moi, je dis Abdul-Jabbar, mais...
Abdul-Jabbar, c'est bon.
Je suis une merde.
Russell Westbrook est très bon, quand même. Hein. Ouais. Ça fait partie des musts. Bon, alors, c'est un bilan demi-saison. Donc, dans le quiz, j'espère que vous avez bien révisé vos stats, vos classements, les infos de dernière minute, etc., etc. Oui, dernière minute, Fred. Oui, dernière minute.
Je dormais, moi, la dernière minute.
Eh bien, pourtant, tu as raté les 70 points de Joel Embiid.
Ben non, je ne l'ai pas raté. Justement.
Alors, c'est ça, la dernière minute, c'est les 70 points d'Embiid face aux Spurs. Vous allez répondre chacun votre tour, hein. Ok, pas tous ensemble.
On commence par qui?
Alors, on commence par Fred. Je vous donne.
C'est souvent Fred d'ailleurs.
Le nom d'un joueur.
Vous me dites
son équipe. Une date. Non, on va pas faire chacun son tour du tout. C'est encore mieux tous ensemble, mais vous n'avez le droit qu'à une réponse. C'était ça le
en
truc.
Un coup alors.
Moi qui me suis gaufré d'entrée. Vous jouez tous ensemble, mais vous n'avez le droit qu'à une réponse. Je vous donne les indices.
Les indices chez vous.
Avec les autres.
Il faut qu'on te réponde quoi?
Qui est le joueur?
Quel joueur?
Mais tu viens de dire je donne le joueur.
Oui, tu viens de dire je donne le joueur.
Eh bien, je me suis trompé deux fois.
Ah oui.
Est-ce qu'on peut couper, là? C'est un podcast. Alors, donc, je vous donne un nombre de points, une équipe, une date. Vous me donnez le joueur.
OK.
Là, c'est bon, je l'ai bien fait.
Oui, là, c'est bon.
OK. Et vous avez le droit à une seule réponse.
OK, après,
maintenant, si chacun a donné sa réponse, vous avez le droit à une deuxième chance.
OK.
Okay. Oh, les règles pour la première question sont très
claires. On n'a rien compris.
Je viens le perdre.
Donc, 70 points. Ah! Il y en a qui ont fait mieux. 71 points.
Donovan
David Robinson.
Le premier, c'était David Robinson. Le point est pour Steve. Donc, c'est 71 points. San Antonio Spurs, 24 avril 94. OK ?
Oui.
Allez, on enchaîne le deuxième.
J'ai le point, là.
T'as le point, t'as okay. le point. C'était ça, c'était David Robinson.
Donovan Mitchell. La mer Noire.
Donovan Mitchell, c'est bon. 71 points avec les Cleveland Cavaliers le 2 janvier 2023. On enchaîne. 71 points. Portland, Trail Blazers. T'as dit quoi ?
Damien Lillard.
Damien Lillard contre Houston le 26 février 2023.
Arnaud, tu peux jouer, hein. C'est pas chaque
Ah, d'accord, ok, excuse-moi.
On enchaîne. 71
David Booker.
Points. Non. Los Angeles Lakers.
Kobe ?
Non. 15 novembre 1960.
1960,
c'est facile, hein. C'est pas facile. Abdul-Jabbar, pas le droit de répondre.
Oui,
toi.
Ah oui, c'est vrai.
Pas le droit de répondre, toi.
Il parle, il me montre.
Il y a plus Steve qui a le droit de répondre, mais j'ai plus d'indice. 71 points. Ouais. Los Angeles Lakers, 15 novembre 1960.
1960
Ouais.
C'est pas Jabbar, c'est trop vieux.
Ouais, c'est trop vieux.
C'est pas Magic, c'est pas.
Oui.
Je vais dire Jerry West.
C'est pas bon. Oh, vous putain. Voulez une deuxième chance, les gars ?
Oui.
Un autre nom.
Oui.
Non.
Lakers, en
il
60.
Il a pas joué aux Lakers, George Michael ? Non.
Non.
S'il a joué.
On arrête là. C'était Elgin Baylor.
Ah ouais !
Ah oui,
même team.
Donc ça fait 2 points pour Steve, 1 point pour Fred.
Arthur Robert, qui est notre producteur, il me souffle Jacques Monclar. Il me dit, oh.
Alors, vrai ou faux cette fois-ci ?
Chacun son tour.
Okay. Là, c'est Fred. Le 13 décembre dernier, Yanis marque 64 points contre Indiana. Il a inscrit tous ses 64 points dans la raquette.
Vrai.
C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vrai.
C'est absolument vrai. C'est absolument vrai, il J'avais a raté 3 tirs à 3 points, stat incroyable.
Oui, mais en même temps, Yannis, c'est pas non plus le plus gros shooter à 3 points de l'histoire.
Mais il a mis un tir à 3 points hier.
Oui, mais je suis d'accord, je veux dire, c'était, c'était clairement plausible.
Il a mis un tir à 3 points hier ?
Il a mis un shooter, au moins.
Oui, mais c'est tout dans la raquette. Hein.
Oui, oui.
C'est pas à l'intérieur de la ligne de 3 points, c'est quand même incroyable. Ensuite,
si c'est à l'intérieur de la ligne de 3 points, justement.
Mais vous, ça ne vous impressionne pas, moi ça m'impressionne. Arnaud, le 19 novembre, OKC a battu Portland 134 à 91. Ce jour-là, OKC est devenu la première équipe de l'histoire à plus de 60% au tir, plus de 60% à 3 points et à 100% au lancer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
C'est faux.
C'est vrai, mon grand.
Parce que tu vois ce que tu vas chercher ça.
Je travaille.
Non mais,
il a commencé le quiz 3 heures avant.
Mais,
hein,
mais
il y avait
comment
le temps,
tu trouves une stat pareille ?
Sur le site de la NBA. NBA.com.
T'as des facts qui font ça.
Quiz basket time.
Okay. Je tape quiz basket time. Hop, tout me sort. Non, je vais sur l'intelligence artificielle en vérité. Okay. Je travaille plus du tout. Et enfin, Steve, oui. Le 22 janvier, Milwaukee bat Sacramento
142-2024.
Ouais, 143-142.
Hier donc.
22 janvier, c'était hier.
Ouais.
22 janvier, bah c'est ça.
Ouais.
22 janvier, exactement. C'était hier ce match ? Je me suis trompé dans la date.
Ouais, tu t'es trompé dans la date, je pense. Ouais.
Non, mais c'était pas le 22 janvier, ça doit être le 12 ou le 2. Bon, c'est pas grave.
C'est fou.
C'était très récent.
Milwaukee bat Sacramento.
Alors, ce jour-là, 3 joueurs. Alors, le score 143 à 142, OK, en prolongation. Ce jour-là, 3 joueurs ont fait un triple-double. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?
3 joueurs ont fait un triple-double. Alors, je pense que Sabonis l'a fait, ça fait 1. Je pense que Giannis Antetokounmpo l'a fait, ça fait 2. De'Aaron Fox l'a pas fait. Je veux dire, c'est faux.
C'est faux, bravo mon grand.
Mais pas que Sabonis qui l'a fait ?
Sabonis et Giannis.
Ah, Giannis aussi.
Et donc là, maintenant, vous allez me dire, vous allez me citer un duo, répondez pas tout de suite, ça sera chacun votre tour, un duo de joueurs de la même équipe qui ont fait un triple-double dans le même match, vous n'avez pas le droit à Kid Carter, ok ?
Pourquoi on n'a pas le droit à Kid Carter ?
Parce que c'est trop simple.
Ah bon, c'était simple ça déjà, Kid Carter ?
Je sais pas, tout le monde le sait, non ?
Non, ben, non.
Moi, je croyais que tout le monde le savait. Bon, alors, en tout cas, vous n'avez pas le droit à Kid Carter. Alors, un duo, il y en a 12 en tout. Donc, moins 1, ça vous en fait 11 possibles. Je lance tout de suite, il y en a 4 qui sont introuvables. Il y en a 3 qui sont des légendes,
hardcore,
qui sont trouvables. Et il y en a 4 qui sont récents. Donc, peut-être, si vous cherchez dans votre mémoire, vous allez trouver votre mémoire
donc,
récente.
Il faut trouver deux joueurs de la même qui, dans le même match,
je vais pas vous demander leur stat.
Deux joueurs de la même équipe.
Ouais, exactement. Le même jour, le même
on
match.
Sera Fred, non.
Alors vas-y, Fred.
J'aurais dit Jokic Murray.
C'est pas bon. Jokic Murray, c'est pas bon. Arnaud.
Même équipe.
Même équipe, oui, toujours.
J'ai tenté LeBron.
Oui, mais avec qui ?
Et...
T'es sur la bonne voie.
LeBron et j'ai envie de tenter un Chris Bosh.
C'est pas bon.
Ah.
Steve.
Je vais tenter Russell Westbrook et Kevin Durant.
Non,
c'est pas bon. C'est pas bon, il y avait Russell Westbrook et Paul George.
Ah putain.
Avec OKC contre Portland en 2019, il y avait LeBron James et Lonzo Ball en 2018. Contre les Hornets.
Ah ouais, okay.
Bon, il y avait Jimmy Butler, Bam Adebayo en 2019 et Jamorant Valanciunas, c'est le plus récent en 2020. Mais il y avait quand même, et là vous pouviez l'avoir quand même, Michael Jordan, Scottie Pippen, Larry Bird, Robert Parrish.
C'est pas si courant que ça,
c'est pas évident que ça.
Et Magic Abdul-Jabbar.
Oui, ça oui.
C'est quels les quatre introuvables?
Alors Lenny Wilkins, Art Harris en 69. Ray Scott et Donnie Butcher en 64, je connais ni l'un ni l'autre.
Il est bouché.
Oscar Robertson avec Arlene Bockhorn en 62.
Ah, mais oui.
Avec les Royals de Cincinnati. Et enfin, Bob Cousy, Tom Henson.
Ah ouais, super.
Alors,
effectivement, c'est introuvable.
Oui, le score, un point score, 3 points pour Steve, 2 points pour Fred. Arnaud, la bulle. Qui est le meilleur passeur?
On dirait Manarino face à Djoko.
Qui est le meilleur passeur de l'Euroleague en passe par match?
En moyenne.
Milos
Teodosic.
Chacho.
Campazzo, oui.
Il faut démarrer plus vite, Arnaud.
C'était encore en un coup.
Ah, tiens, chacun votre tour, encore une fois.
Commence par Fred.
Fred, les 4 victoires de l'ASVEL en Euroleague. T'as pas le droit de te rater. Les 4 victoires de l'ASVEL en Euroleague cette saison. Les 4, je veux les 4.
C'est chacun son tour ou il donne les 4?
Là, c'est chacun son tour.
Kaunas.
Non, mais tu me donnes les 4, là. Tu me donnes les 4.
Ah, mais c'est pas chacun son tour, non, du coup.
Les autres ont une autre question.
Non, on aura une autre question.
Kaunas.
Quand même.
Ben.
Il y en a 4. Un peu de logique.
Alba.
Oui.
Jessica.
Ça fait 2.
Ensuite.
On a démarré les matchs retour.
Oui, je sais bien.
Bon, tu l'as pas, hein, tu l'as pas.
Non, j'ai pas.
Kaunas une deuxième fois.
Et l'étoile, rouge. Et l'étoile rouge de Belgrade.
Et l'étoile rouge de Belgrade. Ensuite, Arnaud.
Donne-moi les 22 victoires du Real Madrid.
Les 3 défaites du Real.
Alors, Monaco.
Exactement. 3 défaites à l'extérieur.
Olympiakos.
Non.
Ouais, le Fener avec un buzzer de Yam Madar. Et ça. Et la troisième, c'est...
Maccabi.
Logique.
Barcelone.
Le Classico, Barcelone. Oui. Et donc, Steve, tu vas me donner les 4 victoires de l'Alba Berlin.
T'es sérieux, moi? T'es sérieux?
Bah, les autres ont échoué. Écoute, t'es une question difficile comme eux. Hein.
Barcelone.
C'est bon.
L'ASVEL, à l'ASVEL. Voilà.
Et en début de saison.
Le Kaunas.
Tout à fait. Il en manque une.
Ouais.
C'est pas la plus simple.
Ils ont battu une bonne équipe.
Oui, une bonne équipe qui a mal démarré.
En même temps, c'était pas très dur, vu qu'il a dit que c'est pas le plus simple.
Ils ont battu Olympiakos.
C'est Milan.
Ah putain.
Question rapidité. Qui est dernier du championnat de France?
Saint-Quentin.
Graveline.
Non,
les Metz.
Ah, les Metz, ouais.
Alors là, à qui je l'accorde?
Fait, je crois, les
Metz. Ah non, j'ai dit Boulogne en premier.
Là, mais Boulogne, c'est pas...
Parce que t'as hésité d'aller...
Allez, pour éviter la
moi,
bulle.
Je suis pas concerné, des marteaux.
On le donne à Arnaud, me dit l'arbitre.
Ah, parce qu'il a
Arthur Robert.
Arthur Robert, je vais te défoncer.
Tiens, on va voir si vous avez bien suivi les derniers mouvements, les derniers transferts. Fred, où joue Amine Noua?
Amine Noua au Fener. C'est...
Bravo. Arnaud, où joue Pascal Siakam?
Indiana.
C'est trop facile, ça n'a rien à voir. Mais tu peux pas comparer.
Ah, il a vu sur NBA.com, j'y peux rien, moi.
Hier.
Non, en fait, j'ai joué 3 matchs.
Mais tu dis n'importe quoi.
Steve, où joue Kevin Pangos?
Kevin Pangos à Valence.
Voilà. Bon, c'est bon, ouais, c'était pas si dur. Hein. Ensuite, il nous reste quoi? Pas grand-chose dans ce quiz. J'ai fini, en fait. J'ai fini, mais si vous voulez, j'ai une question à points multiples.
Bah,
très difficile. Steve a 5 points, Fred 3 points, Arnaud 2 points. Aux enchères, vous avez 5 noms à trouver. Si vous avez les 5, vous avez gagné, Arnaud et Fred. Wembanyama a mis 100 contres en 35 matchs pour sa première saison. 5 autres joueurs l'ont fait dans l'histoire. Est-ce que vous êtes capable de me les donner? Surtout, combien êtes-vous capable de m'en donner? Arnaud, la première 100 enchère.
100 contres sur les 35 premiers matchs.
Ouais, première saison rookie, 100 contres dès les 35 premiers matchs.
Je veux 2.
2, Fred.
3.
Steve.
Je vais tenter 4.
Tu vas tenter 4. Alors, ouais. Tu vas me donner tes 4 noms. Je te dirai si c'est bon ou pas. Okay. Parce que si c'est pas bon, je redonnerai la main à Fred. Okay. Vas-y.
Manu de Ball.
Tu continues.
Manu de Ball, Shaquille O'Neal, David Robinson, Hakeem Olajuwon.
C'est pas bon. Fred, t'en avais 3 à trouver.
Ouais, moi, j'avais mis Dwight Howard.
Continue.
Olajuwon. Et j'avais mis qui? Robinson.
Ok, c'est pas bon. Arnaud.
Je vais reprendre les mêmes. Hein. Non, mais j'avais Olajuwon, David Robinson, Tim Duncan.
Ok, alors Arnaud et Fred, vous avez réussi l'exploit de vous donner 0.
Arrête tes conneries, quoi.
Est-ce que LeBron n'aura pas des comptes?
J'en avais combien, moi?
Il y a Manu de Bol, il y a le Shaq, Alonzo Mourning, et les deux autres, c'était introuvable. Sean Bradley et Terry Tyler.
Mais t'es sûr pour Dwight Howard? Parce que je crois qu'il disait justement, c'est le premier à faire la même chose que moi.
Sûr. Shaq, Alonzo Mourning, Manu de Bol.
C'est pas 20 et 20.
Ouais, c'est peut-être ça. Ouais.
Victoire de Stephen Brun. Bravo. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.